Ray Lalonde est avec nous pour la chronique Sport Business. Bien le bonsoir, mon cher Ray.
Salut, Mario.
Alors, le dossier, ça fait un bout de temps qu'on voulait en parler. On va se garder les autres tout à l'heure, là, le prix de la pub dans les matchs canadiens. Tout ça, on va tous les aborder. Mais parle-moi de Calgary 2026.
Écoute, tu sais que les Jeux olympiques ont eu lieu à Sochi en 2014, à Rio en 2016 et à Pyeongchang. En Asie, encore une fois, en 2018. Les deux prochains, Jeux d'été 2020, Tokyo. Jeux d'hiver 2022, Pékin. Donc, Asie, trois fois de suite. C'était impératif pour le Comité international olympique de trouver une espèce de candidature solide en Amérique du Nord.
Une alternative.
Bon, alors là, ils ont Los Angeles-Paris, le duo LA-Paris. Paris va passer avant en 2024, Los Angeles en 2028. C'est deux excellents choix pour les Jeux d'été. Entre-temps, il y a 2026, les Jeux d'hiver. Pas encore octroyés. Calgary se présente. Il n'y a rien comme le Canada pour les Jeux olympiques d'hiver. Je pense que le CEO est très heureux que le dossier prend de l'ampleur et du momentum. Alors, on parle de Calgary 2026. Ils ont sorti un budget préliminaire il y a à peu près 2-3 mois. Deuxième version aujourd'hui, déjà 1 milliard de plus. On parle de coût d'accueillir ces Jeux-là de 5,3 milliards de dollars canadiens. Bon, c'est cher, mais c'est moins cher que Vancouver. Ça avait coûté 7,7 milliards. Beaucoup plus cher que Calgary en 1988. 830 millions. Alors, tu vois, ça continue d'augmenter. Mais là, 5 milliards... très cher, mais raisonnable. Et ils vont pouvoir réinvestir dans la ville pour refaire, rénover des installations existantes. Ils vont quand même emmener le ski et les sports de montagne à Whistler.
Mais comment ça se fait que ça coûte cher, compte tenu qu'ils ont beaucoup d'installations déjà, à moins qu'elles soient désuètes pour la plupart?
Ben, pense juste au Saddle Dome,
par exemple. Le Saddle Dome, c'est vrai pour le saut à ski,
ouais.
C'est vrai pour
tout. Ben, c'est des choses qui doivent être améliorées technologiquement aussi. Il y a beaucoup d'infrastructures plus modernes. Mais ça demeure une facture raisonnable. J'étais à Sochi, où la facture était de 52 milliards de dollars. Et j'en ai vu de toutes les couleurs. C'est les Russes.
T'es voyais-tu les billets? T'es voyais-tu?
Non, mais c'est les Russes, c'est autre chose. Ils ont construit une ville. Tu comprends-tu?
Ouais.
Puis le pire, c'est qu'ils ont démonté le village olympique par la suite et déconstruit les amphithéâtres pour les replacer ailleurs en Russie. Mais Mario, ce que je veux dire par là, c'est que je pense que le Comité olympique canadien a bien fait dans les dernières années en termes de performance. Je pense que le Comité olympique canadien bénéficie d'un soutien important au niveau des Canadiens, au niveau aussi des paliers gouvernementaux. Ça va coûter 2 milliards en privé, qui va être de la commandite et de l'argent local d'investisseurs, et 3 milliards municipal, provincial, fédéral. Tu vas me dire, c'est une grosse facture encore sur le dos des citoyens, mais...
On est des bons clients!
Oui, Mario, je ne m'attendais pas à cette observation-là, mais effectivement, c'est une bonne remarque. Le Canada est un pays parfait pour accueillir les Jeux, et ça continue de contribuer au développement sportif chez les jeunes, d'améliorer des installations. Calgary se bat pour avoir un nouveau Saddle Dome.
J'y crois, Ray. Je sens que, honnêtement, il manque juste la musique puis le violon. Puis non, mais pour vrai.
J'y crois parce que je trouve que le chiffre de 5 milliards, aussi élevé soit-il, c'est raisonnable dans le contexte des Jeux olympiques.
Oui.
Bon, et ce que ça peut amener comme notoriété, comme rayonnement à Calgary au Canada et comme amélioration du système sportif va faire en sorte que le Canada va continuer à produire davantage de jeunes athlètes olympiques et des athlètes d'élite avec un espoir de médaille un jour.
Rapidement, l'avenir des Flames est-il lié un tant soit peu à cette candidature-là par rapport à leurs besoins d'une nouvelle infrastructure?
Disons que dans le budget, ils ont mis en place la possibilité d'avoir un amphithéâtre neuf, mais actuellement, le chiffre de 5,3 milliards inclut des rénovations majeures au Saddle Dome actuel.
Pour avoir deux arénas, j'imagine, d'envergure?
Mais je pense qu'ils préfèrent trouver des façons de peut-être améliorer l'aréna existante de façon à la rendre plus moderne. Mais il y a une possibilité, un bémol, si on veut, pour un amphithéâtre neuf pour les Flames. Ça n'affecte pas l'avenir des Flames. Les Flames s'en vont nulle part. C'est trop important, le hockey à Calgary. La rivalité avec les Oilers est importante et l'équipe continue de bien faire. C'est juste que, comme les autres, ils veulent un amphithéâtre plus moderne pour générer plus de revenus.
Par ailleurs, je voulais aussi te parler du prix des publicités dans les matchs du Canadien à la télévision. À moins que tu voulais ajouter d'autres...
Non, Mario, ça, c'est un bon point parce que prix de publicité... Bon, on parle ce matin de baisse anticipée de 25 %. Alors, si je te pose la question, Mario, tu penses que ça vient d'où, ça? Toi, tu vas me dire la même chose que n'importe qui. Le Canadien est tout simplement moins populaire. Il y a moins de gens qui écoutent les Canadiens à la télé. Particulièrement en fin de saison et demi de saison l'an dernier, où l'équipe était à toute fin pratique éliminée, c'est normal que les gens consomment moins le hockey de façon traditionnelle et classique. C'est déjà difficile, on l'a dit toi et moi souvent, d'attirer les spectateurs au Centre Bell ou dans un amphithéâtre.
De faire se déplacer.
Oui. c'est déjà difficile de les garder rivés à la télé pendant 3 heures. Et la télé aujourd'hui, et les abonnements au câble, au satellite, déjà difficile de garder les gens convertis quand il y a toutes sortes d'opportunités sur le web, sur le stream, sur les bundles, si on veut, de contenu, de Hulu à Netflix et ainsi de suite. Alors pourquoi penserions-nous qu'on peut maintenir des chiffres avec une équipe qui s'attend à des performances modestes cette année, sachant très bien que RDS et TVA Sport doivent faire des promesses, vendre à un prix, livrer ce prix-là. Donc, c'est pour ça qu'on est plus conservateur dans l'approche, puis qu'on s'attend déjà à des chiffres tout à fait réalistes, peut-être 200 000 personnes par match à RDS, puis un peu moins de ça à TVA Sport.
Je ne sais pas jusqu'à quel point ça peut compliquer la vie des diffuseurs, affecter même l'action ou quoi que ce soit, parce que les droits de télédiffusion ne vont pas baisser, eux, même si le prix de la pub va baisser. Et du même sort, j'ai envie de te dire, si le Canadien, par exemple, surprend cette année ou dans 2 ans, puis que tes cotes sont au-delà des prévisions, est-ce que l'inverse est aussi vrai?
Ben, normalement, lorsqu'on ne livre pas, on a des comptes à rendre, c'est-à-dire des remboursements, pas nécessairement en dollars, mais en temps. Et on remet un peu de cette publicité-là pour les annonceurs qui s'attendaient à des meilleures cotes d'écoute. C'est normalement ce qu'on appelle un « make-do », un « make-up ». Bon, mais quand c'est l'inverse, malheureusement, non. On ne charge pas plus cher.
L'année suivante.
Oui, effectivement.
Tu les attends dans le détour. C'est comme les prix des billets.
Ou dans les séries,
comme
ou dans d'autres formes. C'est ça.
Oh, oui.
Mais il faut donner, tu sais, encore une fois, ces équipes-là, ces organisations-là n'existent pas sans le soutien corporatif publicitaire, qui est très important. Mais il faut aussi être capable d'estimer avec justesse le chiffre.
I'm not going anywhere, telles étaient les paroles de Eugene Melnyk, propriétaire des Sénateurs d'Ottawa, plus tôt aujourd'hui, en entrevue avec un de ses joueurs. Pour les gens qui ont vu la vidéo circuler sur les médias sociaux un petit peu partout, c'était assez... Bon, on comprend que c'est dans un... L'objectif, c'est un objectif de marketing, de relations publiques. Qu'est-ce que tu en as pensé?
Moi, j'ai trouvé que c'était bien. Je trouvais qu'il était dynamique, M. Melnyk. Je trouvais qu'il a tout de suite... Écoute, je suis obligé de le comparer à n'importe quel propriétaire dans le sport. Aujourd'hui, la comparaison avec M. Vinick à Tampa Bay, avec la nomination de Julien Brisebois, on y reviendra. Mais pour moi, un propriétaire, c'est le leader incontesté d'une organisation. Et il doit se faire valoir. En 2018, les propriétaires ont un rôle à jouer de porte-drapeau et d'ambassadeur d'une équipe. Je ne te demande pas d'être un cheerleader. Ce que je veux dire, c'est que tu ne peux pas non plus être dissimulé derrière. Tu dois prendre position à quelques moments stratégiques dans une année pour rappeler à l'ordre, pour redonner la confiance au marché, pour injecter de l'espoir. Alors, Melnyk, là, on a parlé de ses problèmes financiers. On a parlé que l'an dernier, il y a des partisans qui disaient « Hey, Melnyk vend l'équipe, il achetait des panneaux d'affichage publicitaire dans les autoroutes à Ottawa. » On sait qu'on se demandait s'il y avait eu lui-même des problèmes d'argent. Et il y a aussi la possibilité, les sénateurs cherchent depuis longtemps à se construire un nouvel amphithéâtre à Le Breton Flats, près du centre-ville d'Ottawa. Mais Mario, à la fin aujourd'hui, son geste, c'est un geste de réconfort en disant « On vous promet une meilleure équipe. On s'engage à améliorer l'équipe sur la glace, l'expérience dans les gradins. »
Mais il parle d'une reconstruction il ne parle pas de
il
évoque
pas de
la
détour.
Coupe Stanley, mais il évoque qu'il va y avoir bien des jeunes dans l'alignement cette année puis qu'il va en avoir peut-être encore plus dans 2 ans.
10 jeunes cette année, il en attend plus dans 2 ans. Il a parlé de 9 participations aux séries depuis 15 ans, dont la finale de la Coupe Stanley. Il y a une chose que lui rappelle aux gens, c'est qu'il n'accepte pas la défaite. Il n'y a pas de doute là-dessus. Bon, moi, j'applaudis un propriétaire qui prend une position et qui se mouille et qui met un peu tous ses œufs dans le panier en disant « Non, non, on va vous promettre de faire mieux. On compte sur vous comme soutien, mais en retour, je promets moi-même là, qu'on va faire mieux et qu'on va vous livrer plus d'engagement communautaire, plus d'efforts pour améliorer la performance de l'équipe et effectivement d'augmenter les revenus. » Parce que le problème des sénateurs, Mario, c'est un problème de revenus. Quand tu as un aréna comme à Ottawa qui est à 3/4 plein, c'est beau, là, 75 %, mais il y a 25 % des sièges qui sont délaissés quasiment match après match. Les sénateurs se doivent de trouver une façon de mettre en marché, vendre ces billets-là et générer les revenus associés parce que ces matchs-là ne reviennent plus. Quand tu les perds, ils sont perdus.
Tu as côtoyé Julien Brisebois quand même pendant de nombreuses années dans l'organisation du Canadien de Montréal, d'apprendre sa nomination à la succession de Steve Yzerman. Premièrement, c'est toute une nomination, puis il ne succède pas à n'importe qui là, dans un marché américain.
Ouais, moi, j'applaudis la nomination de Julien. Je suis tout à fait d'accord avec Danny tout à l'heure, à savoir que c'est un Québécois, il faut applaudir et être fier de son succès. Je me rappelle de matchs à 6 heures le matin qu'on jouait au Centre Bell ensemble, avec Julien comme coéquipier. Julien il y avait une intensité remarquable. Il était 6 heures le matin et chaque mise au jeu comptait comme une finale de la Coupe Stanley. Le gars est intense. Le gars est rigoureux. Il a fait ses classes. Il a tout suivi les étapes. 6, 7, 8 ans, 9 ans comme adjoint avec André Savard et Bob Gainey. S'en va à Tampa Bay, redevient adjoint encore une fois, mais prend charge de Hamilton pour les Bulldogs, de Syracuse pour le Crunch, connaît du succès.
4 finales dans la Ligue américaine.
Il a développé des joueurs et pourtant, il ne sort pas du moule naturel. C'est une
et
chose.
Il a développé des joueurs qui ne sortent pas du moule naturel ou tout le temps de l'autoroute, là, des gars qui n'ont pas été repêchés parfois.
Des deuxième chance qu'il a donné à des gars, puis ainsi de suite. Moi, je pense à Louis Domingue, qui est le gardien de but substitut auxiliaire à Vasilevski, qui avait été retranché à Arizona avec les Coyotes. Julien Brisebois, je pense que c'est une autre version de la jeune génération moderne, comme il y a à Toronto avec Kyle Dubas, comme ils ont en Arizona, de jeunes directeurs gérants. Puis j'enlève rien à des coachs canadiens, français, québécois qui sont arrivés à la Ligue nationale. C'est encore plus dur d'être un Québécois pour arriver comme directeur gérant, vice-président exécutif et second gouverneur, Mario. Non, honnêtement, là, très fier de Julien. Il a fait ses classes, il a mangé ses bas, comme on dit, pour y arriver. Il mérite l'occasion, puis il est prêt. Parce que 5-6 ans auparavant, quand on parlait de Julien, puis chaque fois que son nom circule dans les rumeurs, il faut quand même que tu sois prêt pour une job comme ça. Et je pense que...
C'est une bonne chose, d'une certaine façon.
De s'expatrier, d'aller à l'extérieur, Mario, il a démontré du courage. Bravo pour lui. Puis en plus, il pourra avoir son nom gravé sa Coupe Stanley d'ici peu. Ils ont toute une équipe à Tampa Bay.
Ray, merci beaucoup. Je te dis à très bientôt. Une excellente soirée. Je vous rappelle, mesdames, messieurs, si vous voulez en écouter davantage de Ray, que vous pouvez écouter ses podcasts Focus sur YouTube et SoundCloud, et tu les relais sur Twitter en plus, où t'es pas dur à trouver. Ray,
merci
beaucoup, à très bientôt. Je vous reviens dans un instant, et Jacques Villeneuve sera là pour nous parler du... Il y a eu un échange, pas au hockey, mais en F1. Raikkonen, Leclerc, Swap, on revient tout de suite.